des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Il est 6h30 du matin alors qu'un individu se dirige vers les bâtiments principaux de Rideau Hall en empruntant un sentier pédestre. Quelques minutes avant, sa camionnette avait percuté la clôture de l'entrée de cette propriété où habite la gouverneure générale du Canada et également la résidence maintenant et pour un moment du premier ministre du Canada. L'individu a été arrêté par la GRC parce qu'ils ont été avisés. Le groupe tactique s'y est rendu. Et ils ont découvert des boîtes de carton, toutes sortes de choses dans la camionnette, mais entre autres des armes. L'individu s'était caché et là, on a réussi à le débusquer et procéder à son arrestation. Il fait face à des accusations de plusieurs chefs criminels. C'est la GRC qui a opéré. Et en conclusion, la Gendarmerie royale du Canada nous dit « Nous allons reviser nos façons de faire pour augmenter les niveaux de sécurité ». Il me semble que c'est la même phrase qui avait été dite lorsque la GRC avait été questionnée sur l'introduction par effraction d'un individu à la résidence du premier ministre à 24 Sussex. Pour nous parler de sécurité des gens de l'élite et des gens importants et des dirigeants, on va parler maintenant à un spécialiste du domaine, M. Savard, qui est avec nous. Bonjour, M. Savard.
Bonjour, M. Mongrain.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même.
Bien, ben oui, oui et non. Je me demande où on est, c'est quoi le pays ici? Parce que je ne comprends pas que des personnalités politiques, des dirigeants, ne soient pas plus en sécurité que cela et qu'on peut, comme ça, entrer sur les lieux de leur résidence. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, comment ça marche?
Ben, vous savez, déjà là, on est dans un pays où l'accès public à des domaines est chose établie. Exemple, Rideau Hall, il y a un accès public normalement. Ce qui fait qu'il n'y a pas de public ces temps-ci, c'est la pandémie qui a amené l'arrêt des visites, l'arrêt de la circulation des gens sur les lieux. Mais c'est un peu le mitoyen entre fermer complètement des lieux où des personnalités politiques s'installent et l'ouverture complète. Vous savez, on avait à peu près le même genre de situation sur les bases militaires. On disait que les bases militaires étaient des bases ouvertes au Canada, où il y avait une guérite, mais c'était plus ou moins surveillé. Ça s'est refermé. Et c'est un peu ce qu'on a au Canada, mais il faut regarder vraiment ce qui s'est passé ce matin pour dire est-ce que c'est une excuse de dire que c'est ouvert au public, le fait qu'il y a quelqu'un qui puisse se rendre si loin que ça sur le terrain? C'est ça l'enjeu actuellement.
Ben c'est ça, il y a une barrière, il y a une entrée en fer, il pousse sa camionnette là-dessus, il endommage sa camionnette, elle n'est pas utilisable, il descend, il débarque, il prend un sentier pédestre, il réussit à se rendre à la résidence, voire même derrière dans les serres, et il s'embusque. Honnêtement, là, il y a quelqu'un qui faisait le gazon qui n'a pas fait sa job, là.
Ça fait drôle de dire ça, parce que c'est probablement quelqu'un qui faisait le gazon.
Qui a averti tout le monde.
Exact. Qui l'a vu, qui a appelé les commissaires, et qui, eux, ont appelé, après ça, le centre de commandement de Rideau Hall. Mais vous savez, c'est l'opération policière, c'est-à-dire le déploiement, l'activation du plan, s'est faite correctement. La manière dont les policiers sont intervenus sur les lieux avec l'individu, discuter avec, évaluation de la menace, s'est faite correctement. Maintenant, quand on réalise où il a été arrêté, cet individu-là, on est à peine à 100 mètres de Rideau Cottage, où le premier ministre est installé.
Exact.
Donc, on voit qu'il a passé Rideau Hall, il est beaucoup plus loin vers l'est, et il est presque rendu à Rideau Cottage. Et ça, actuellement, c'est...
Résidence du premier ministre.
Tout à fait. Maintenant, temporaire, ouais. Là, jusqu'à ce que ouais. Le Sussex, 24 Sussex soit
rénové.
En fonction.
Ouais.
Maintenant, le questionnement qu'on aura, c'est est-ce que tout ça est normal dans les circonstances? Vous savez, on parle d'une clôture, on fait référence à une clôture robuste, mais encore là, dans des véhicules, quand on décide de fermer les clôtures, parce qu'elles sont fermées, les clôtures,
oui.
Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, maintenant, il y a des lieux sécuritaires où on installe des bollards qui sortent du sol. Donc,
oui.
C'est des immenses
colonnes.
Morceaux de métallique,
oui.
Colonnes. C'est à peu près indestructible et ça va arrêter à peu près n'importe quel véhicule. Et on installe comme ça quelques-uns à la suite les uns des autres pour justement être capable, dépendamment de l'endroit où est rendu le véhicule, d'activer le bon bolard et de fermer le chemin.
Mais Monsieur Savard, honnêtement, là, juste une parenthèse. Moi, je m'en viens ici travailler le matin, là. Je rencontre au moins 4 ou 5 gardes de sécurité pour être bien sûr que je me lave les mains, que je porte mon masque, que je tourne à gauche, que je suive les flèches. Il n'y a pas un gars qui peut être assis en arrière de la barrière et dire « Wow, qu'est-ce que tu fais là, mon homme? » On paye sur le piton puis t'es parti. Il n'y a pas ça.
Vous avez raison parce que c'est un peu tout le post-mortem que la GRC va devoir faire parce qu'aujourd'hui, on réalise que si, exemple, il n'y a pas un employé sur le terrain qui le localise en train de marcher, qui n'appelle pas les commissaires, bien, ça prend combien de temps avant qu'il y ait un déploiement? Mais comme je vous dis, le déploiement, à partir du moment où ils sont avisés, là, les gens sont rendus, ils ont déployé.
Ça a bien été.
C'est le temps. Et qu'est-ce qu'on était capable de faire pour vraiment empêcher que tout ça se passe en amont de l'événement? Et ça, c'est un post-mortem qu'ils vont devoir faire parce que, vous savez, le premier ministre du Canada, c'est pas une personne qui a une menace contre lui du même niveau que le président des États-Unis.
Je comprends
mais
ça.
Mais quand même, on reste quand même avec le plus haut dirigeant de l'État et on doit s'assurer que personne va être capable de se rendre à sa résidence. Et ça, je pense que ça va devoir être revisé au complet.
Mais M. Savard, entre vous et moi, là, ça va être le deuxième post-mortem de la GRC en peu d'années. Là. Jean Chrétien, le gars, est rentré dans la maison.
Vous avez raison, mais vous savez, c'est la nature même des opérations policières et j'ai tellement vu ça.
Ah oui.
Rappelons-nous quand est arrivé les événements en 2001. On a eu des mesures qui se sont installées et on a des mesures qui sont restées, qui ont demeuré. Les aéroports, le contrôle des passagers. Mm-hmm. Et il y a eu des mesures qui ont été laissées tomber. On a investi énormément à l'époque dans des façons de faire, des structures, de l'énergie en matière de personnel, d'équipe de filature pour être capable de contrer des menaces de terroristes à l'occurrence. Et je vous dirais, le temps fait que à un moment donné, les priorités administratives, opérationnelles changent.
Le relâchement.
Sans dire un relâchement, les gens qui sont concernés pour eux autres, c'est la priorité. Mais les argents ne sont pas disponibles, ils ne sont plus là. Vous savez, je fais une référence avec le dossier. On parle beaucoup de reviser les budgets des forces policières compte tenu de tout ce qui s'est passé dans les derniers temps. Ça fait partie du concept.
Ouais.
Vous savez, est-ce que c'est ça la solution? Vous savez, quand il y a une pression énorme sur la budgétisation des forces policières, bien, à un moment donné, on y va sur les probabilités, on évalue selon les menaces, selon la récurrence et l'occurrence des événements, et à un moment donné, on diminue, il ne se passe rien.
Mais bon, c'est aussi une question, si vous me permettez, et dites-moi si j'ai tort, c'est aussi une question de mentalité, je ne sais pas, parce que notre société est différente de celle des autres. En cela, j'en prends pour exemple, un jour, je suis dans une réception, parce qu'il se passe quelque chose au point de vue touristique, en tout cas, c'est dans une salle, et il y a des gens, il y a des Français qui sont là, parce que c'est une affaire Québec-France, et je suis là, puis à un moment donné, le premier ministre du Québec de l'époque, Robert Bourassa, arrive. Il y a un gars de la Sûreté du Québec, là, qui est son chauffeur bodyguard, etc. « Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? On se parle, on jase ensemble, etc., etc. » Et là, il s'en va ailleurs, le premier ministre. Le Français qui était avec moi me dit « C'est impossible chez nous. C'est impossible. » D'abord, personne ne peut s'approcher à si courte distance du chef de l'État. Personne ne peut entreprendre une conversation anodine avec le chef de l'État. Il était renversé, ce gars-là. Il dit, moi, le premier ministre chez nous, ou le maire, c'est impossible. Alors, c'est autre chose dans la culture de la sécurité et de la protection avancée.
Vous avez tellement raison que les gens qui sont responsables de la sécurité de nos dirigeants d'État, là, les plus hauts, que ce soit le premier ministre du Québec, celui du Canada, pour eux, là, c'est une préoccupation qu'ils ont de façon continue. Mais dans la mentalité, l'accessibilité aux personnes, l'accessibilité aux lieux, on n'est pas encore rendu à dire « on rend ça très difficile ». difficile l'accessibilité aux personnes et aux lieux. On fait attention, on reste proche, on veut une proximité. On est des gens de proximité, hein. Et on veut la proximité avec nos élus. Les élus souhaitent la proximité avec les citoyens. Donc, tout ça fait que pour les forces de sécurité, il faut qu'ils réussissent à combler ce besoin-là de proximité par des mesures de sécurité ou à la limite par une veille continue sur la menace.
Jusqu'à ce que.
Ben oui, tout à fait. Et dans le cas présent, ben moi, je sais aussi qu'il y a une enquête qui se fait. Pas une enquête sur le crime qu'il a commis. Ça, c'est normal. Ça. Il a commis un crime, on va enquêter, on va déterminer quelles accusations il devrait comparaître cet après-midi. Mais pour moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où cet individu-là radicalise sa pensée, décide de se rendre à Ottawa, il part du Manitoba, là. C'est quand même quelque part. Et il décide de se déplacer avec, dans sa tête, d'aller sur le terrain de Rideau Hall et de Rideau Cottage pour parler, discuter, et il est armé. Donc, quelles sont ses réelles intentions? Est-ce qu'on aurait pu, à la limite, en amont, découvrir avec des gens, des proches qu'il avait, qui était en train de se radicaliser dans son action? Ses motivations. Est-ce qu'on aurait pu essayer de... Et c'est ce qu'on va faire comme enquête. Actuellement, là,
M'amenez sur un sujet, M. Savard. Je comprends très bien ce que vous me dites. Vous m'amenez sur un sujet. Vous avez été directeur adjoint de la Sûreté du Québec, un corps discipliné, organisé, dont le membership, j'allais dire, l'allégeance est importante, on est solidaire, etc., etc. C'est un militaire cette fois-ci, et ça a été un militaire à Québec, Lortie, et ça a été un militaire ailleurs à Ottawa, ou ex-militaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la formation ou dans la mentalité de ces groupes organisés-là que l'on retrouve souvent des agresseurs dans ces domaines-là? Le profil psychologique.
Ouais, ben écoutez, d'abord, je ne suis pas psychologue, je veux faire bien attention, mais mon expérience me dit... D'abord, il faut comprendre que dans les groupes militaires et paramilitaires, il y a une hiérarchie du commandement. Il y a une structure de commandement où, à la limite, on fonctionne, on dit en anglais « top-down », hein? C'est des instructions qui partent
du haut vers le bas.
Qui descendent vers le bas. Et rendus au bas, on est généralement des exécutants. La différence principale entre... une force policière, comme la Sûreté du Québec, une force militaire, c'est que de plus en plus, on a vraiment maintenant des discussions et un apport important du bas vers le haut. Les gens qui réalisent la mission policière sont sur le terrain.
Okay.
Ils voient les besoins. Ils voient la réalité avec les citoyens. Et eux vont faire remonter des situations.
Des constatations et des situations.
C'est ça. Et ça donne l'implication et on est moins militarisé, les forces policières, moins militarisé dans l'esprit. Maintenant, est-ce que c'est l'explication de dire qu'on est des exécutants et à partir du moment où une personne va, à la limite, se radicaliser dans sa pensée et dans son besoin d'action, est-ce que l'explication est de dire qu'il n'était qu'un exécutant dans une chaîne de commandement? Il faudrait faire des études sur cet aspect-là, M. Mongrain. J'oserais pas m'avancer parce que ça devient un sujet d'étude intéressant et une comparaison qui pourrait peut-être amener des pistes de solutions pour dire comment on fait pour justement éviter ou à la moins prévenir ce genre de situation.
Tout à fait, parce que on sent chez ces gens-là, en tout cas des quelques cas dont je me rappelle, des frustrations en rapport avec leur appartenance au groupe, et là ils se marginalisent et passent eux-mêmes à l'action dans le dérapage.
C'est ce qu'on voit, et on voit aussi les frustrations. Vous avez dit un mot très important, le mot frustration.
Tout à fait.
Quand on voit, et je fais un lien là rapide. Quand on voit, par exemple, des fuites dans les médias de dossiers opérationnels policiers, c'est basé souvent sur une frustration.
Oui, c'est récent, mais on s'en souvient, là.
C'est la réponse de l'individu qui, lui, en matière d'enquête ou en matière de dossier particulier, d'opération, vit une frustration. Ce que vous venez de faire comme comparaison, c'est est-ce que dans des domaines où la fonction ou le métier de militaire, oui. est-ce que ces frustrations-là se traduisent par des
gestes de dérapage comme ça?
Plus violents.
Oui.
J'aimerais que vraiment on fasse
on se penche là-dessus.
Ça pourrait être intéressant. Oui.
Monsieur
oui.
Savard, Marcel Savard, ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec, merci beaucoup de vos lumières et de votre expérience en cela. Merci beaucoup. Au plaisir et à l'une prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Ah là là, quelle affaire. On parle à Alec Castonguay après parce que je parlais de ce Québec coupé en deux suite à la pandémie. Il y a un dossier fort intéressant qui va sortir dans le magazine L'Actualité. Et il a fait un portrait d'une journée dans la vie de la directrice de la santé publique de Montréal. C'est peut-être différent que d'être directeur de la santé publique ailleurs et où pour le Québec en son entier.